VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. RDC, il est essentiel d'identifier les responsables militaires et politiques des violences au Kassai dans le cadre des enquêtes sur leurs auteurs matériels. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme dans le pays. L'ONU a annoncé mercredi la découverte de 38 nouvelles fosses communes dans cette région du centre de la RDC, secouée depuis près de 9 mois par des violences, ce qui porte à 80 le nombre de fosses recensées par cette organisation. Selon l'ONU, les dernières trouvailles dans ce domaine ont été découvertes dans les régions de Diboko et de Sumbula, dans le territoire de Kamunia. Rappelons que les violences au Kassai ont causé la mort de plus de 3000 personnes, d'après les chiffres rassemblés par l'Église catholique, et environ 1 300 000 Congolais ont fui leur foyer dans cette région, selon l'ONU. Rwanda, les forces de sécurité rwandaises ont exécuté au moins 37 petits délinquants sans les poursuivre en justice entre juillet 2016 et mars 2017 dans l'ouest du pays. C'est ce que dénonce Human Rights Watch dans un rapport publié ce jeudi. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme basée à New York, cette vague d'exécutions extrajudiciaires entre dans le cadre d'une stratégie officielle pour répandre la peur, faire respecter l'ordre et dissuader de toute résistance aux ordres et aux politiques du gouvernement. Le Rwanda est considéré comme un des succès de l'Afrique, en particulier grâce à son économie en pleine expansion, mais les critiques à l'égard de Kigali pour ses atteintes à la liberté d'expression et son manque d'ouverture politique se sont multipliées ces dernières années. Au Burundi voisin, l'ancien président burkinabé Michel Kafando, émissaire spécial de l'ONU dans le dossier burundais, rencontre les différents acteurs politiques, mais dans le secret. Gilbert Bekonjangwa, porte-parole de 13 organisations de la société civile burundaise proche du pouvoir, fait partie de ceux avec qui Michel Kafando s'est entretenu mardi. Monsieur Njangwa est convaincu que seul un dialogue à l'intérieur du Burundi peut ramener la paix dans le pays. On l'écoute.
Lui avons carrément dit que la révision de la constitution de la République des pays membres de l'ONU, que ça en rêve de la souveraineté nationale. Nous avons aussi parlé sur le dialogue inter-burundais, que ces conclusions manifestent aussi la volonté populaire, que le dialogue externe soit rapatrié à Bujumbura et que le dialogue continue à l'intérieur du pays. S'il y a des personnes parmi les acteurs politiques ou les politiciens qui vivent à l'étranger, qui veulent rentrer, puissent rentrer rapidement, sans peur, parce qu'ils ne vont pas rester à l'extérieur pour l'éternité. Qu'au Burundi, il y a la paix, il y a la sécurité, et que les Burundais vivent en harmonie et en symbiose.
Gilbert Bekonjangwa, porte-parole de 13 organisations de la société civile burundaise qui sont proches du pouvoir en place. Au Cameroun, au moins 14 civils ont été tués et une trentaine blessés dans la nuit de mercredi à jeudi dans un double attentat à Ouaza, dans l'extrême nord du pays, région où les attaques attribuées aux djihadistes nigérians de Boko Haram sont fréquentes. Deux kamikazes se sont introduits dans un lieu très fréquenté où il y a des restaurants, des call box, des cabines téléphoniques de fortune, ainsi que des buvettes. Ils se sont fait exploser vers 22h30, heure locale, 21h30 temps universel, a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un responsable administratif de Ouaza, ville de transit située entre Maroua et Kousséri, à la frontière du Tchad. Nigeria, au total 19 personnes ont été tuées dans le quadruple attentat suicide perpétré mardi soir par des femmes kamikazes à Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la police nigériane qui avait dans un premier temps fait état de 15 morts. Les quatre femmes kamikazes ont visé une cérémonie funèbre dans le quartier de Molaï Kalimari, a précisé le chef de la police de l'état de Borno, Damian Chukwu, dans un communiqué mercredi soir. La plupart des victimes étaient des membres des milices civiles qui ont de nombreux postes de contrôle à Maïdougouri et participent à certaines opérations militaires aux côtés de l'armée nigériane dans la lutte contre Boko Haram.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, la ville de Gao devient incontournable dans la gestion de la crise que traverse le pays. La grande métropole du Nord malien abrite le gouvernorat de la région de Kidal et certains déplacés qui en sont originaires. Et puis, l'insécurité reste notable dans la ville. Pour rassurer les populations, Gao s'organise pour faire face à cette situation. Le compte-rendu de notre correspondant Kassim Traoré.
Une fois à Gao, de l'aéroport au centre-ville, on est frappé par les dispositifs sécuritaires devant certains bâtiments de l'aménagement, des barkans ou des officiers de l'armée malienne. Loin de cette sécurité de haut niveau, on est en pleine ville. Suleiman Sango, communicateur traditionnel, est venu faire des achats au marché de Gao.
C'est la peur au ventre. Nous remarquons qu'il y a des bandits dispersés dans la nature qui font des attaques partout, dans les carrés, dans les villages, sur les routes. Ils font braquer les gens, ils enlèvent les motos, ils enlèvent les véhicules, ils prennent tout ce que tu possèdes. On indexe certains groupes armés, on indexe d'autre part des bandits armés seulement qui n'appartiennent à aucun groupe.
Dans le quartier Château, non loin de la rôtisserie Moua, avant d'arriver au bout de la rue, se trouve un bâtiment. Le drapeau malien est sur le toit de l'édifice. On est dans le gouvernorat de Kidal à Gao. Sidi Mohamed Ag Ishrach, le gouverneur de Kidal, nous accueille.
Alors c'est vraiment pas facile. Nous utilisons différents canaux de la société civile. Nous parlons avec les groupes armés des deux camps, que ce soit de la plateforme ou de la SEMA. Nous menons des actions pour ce qui concerne la protection des populations civiles, l'appui aux populations en difficulté, l'accueil des déplacés, la scolarisation des enfants, donc la marche des écoles, la remise en état des structures de santé.
Notre passage coïncide avec le combat entre SEMA et la plateforme dans la ville d'Anefif. Même si le gouverneur garde espoir, il a condamné ces attaques des frères ennemis de Kidal.
Il y a des deux côtés des gens qui ne sont pas très sensibles au sort des populations civiles et qui veulent absolument en découdre au détriment de la paix. Je pense que c'est condamnable, quel que soit le côté d'où ça vient, mais ça ne doit pas nous décourager.
Alaï Ag est ressortissant de Kidal. Cordonnier, il travaille sous un petit hangar et gagne bien sa vie. Mais toujours, il pense à Kidal.
Ce qu'on voit en réalité, c'est le problème des ethnies. C'est ça qui se passe à Kidal aujourd'hui.
Kidal
à
Gao, c'est aussi des déplacés, surtout les femmes et les enfants. La porte-parole des femmes de Kidal lance un appel aux différents combattants.
Je m'appelle Dadi Awolet Moussa de Kidal, que je demande à tous les hommes, à toutes les femmes, à toutes les jeunesses de songer la vie des humains, c'est pas la vie des poulets. Et un pays aussi, s'il n'a pas des hommes, il n'a rien.
A signaler que le combat à Anefif a été très violent entre la SEMA et la plateforme. Anefif est actuellement contrôlé par la SEMA. Le bilan provisoire est de plusieurs morts de part et d'autres, des blessés, mais aussi des armes détruites. Gao, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Soudan, le parti du président soudanais Omar al-Béchir a affirmé aujourd'hui qu'il tiendrait les États-Unis pour responsables si des troubles éclataient dans le pays après la décision de Washington de prolonger ses sanctions contre Khartoum. La veille, Omar al-Béchir, mécontent de cette prolongation de 3 mois, avait suspendu les discussions avec Washington sur la levée totale des sanctions américaines imposées depuis 1997. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le président Omar el-Béchir a décrété la suspension du comité qui négociait depuis plus d'un an avec des responsables américains pour tenter d'obtenir la levée définitive des sanctions. Le président Donald Trump a prolongé jusqu'au 12 octobre la période probatoire. Pour faire lever l'embargo, Khartoum doit mettre fin à son soutien aux groupes rebelles au Soudan du Sud, cesser les hostilités dans les provinces du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud et coopérer dans la lutte contre le terrorisme. Plus tôt mercredi, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Gandou, a dit regretter la décision américaine qui intervient après de longues négociations entre Washington et Khartoum. Les sanctions contre le Soudan ont été imposées en 1997 pour son soutien présumé aux islamistes, dont le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden.
Pour terminer, conflit en Syrie, des conseillers militaires américains opèrent au cœur de la ville de Raqqa, dernier grand bastion du groupe État islamique dans le pays. Morgan Guiriek.
Le colonel Ryan Dillon, porte-parole de l'armée américaine, assure que ses membres des forces spéciales, pour la plupart, sont en mission d'accompagnement des forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes. Il précise que les soldats américains ne participent pas directement au combat, mais sont là pour former et soutenir les FDS, qui ont lancé en novembre une offensive pour déloger les djihadistes de Raqqa, dernier grand fief urbain du groupe État islamique en Syrie.
Et pour terminer, le président Donald Trump est à Paris depuis ce matin avec son épouse Melania. Il est l'invité d'honneur du président français Emmanuel Macron pour les commémorations demain du 100e anniversaire de l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.